Chapitre 11. Premier voyage de Joe Guilford. La nuit tombe sur les rues humides et sinistres de cette portion de la cité qui avoisine la tour de Londres quand on se dirige vers les docks et Wapping. Des rues qui réclament le respect à cause de leur antiquité et qui n'ont aucune autre raison de l'obtenir. On pourrait dire d'elles ce qu'on dit d'un ci-devant beau ou d'une coquette ridée, complètement méprisable d'ailleurs, mais assez chargée d'années pour mériter le titre de vieillard. Elle pourrait dater vraiment du temps des Romains, si l'on en juge par l'absence complète de tout progrès moderne et de toute propreté. Elle pourrait avoir fait partie de quelques cités lacustres, autrefois cachées sous l'eau, dont elles semblent avoir émergé, toutes couvertes de limon, et ce qu'il y reste encore de boue, d'humidité et d'éléments aqueux déposés, comme une lèpre sombre sur la façade des maisons et sur le pavé inégal et glissant, est inimaginable. Des rues dans lesquelles la lumière semble ne pénétrer qu'à regret, comme si on l'y forçait par une contrainte cruelle, même par ces jours si rares, désignés sous le nom des plus beaux jours d'été. Des rues où les véhicules les plus fréquents sont la brouette du marchand des quatre saisons, chargée de légumes et de fruits pourris. Des rues où les quelques femmes que l'on aperçoit sont chaussées de savates et vêtues d'habits qu'elles ne doivent point avoir la peine de quitter le soir, car ils s'en iront bien tout seuls. On les voit rapportant presque toujours à la maison pour deux sous de spiritueux et s'arrêtant pour parler à de vieilles mégères sales, échevelées comme elles, toutes criantes après des enfants qui vont nu-pieds, si absolument couverts de boue, que les yeux maternels eux-mêmes doivent éprouver une certaine difficulté à les reconnaître. Des poissons, rebuts des marchés, s'étalent à la porte des boutiques, puis de la viande gâtée, du charbon dans de petites boîtes, singuliers objets de négoce qui semblent offerts depuis un demi-siècle à des acheteurs hors d'état d'acheter et qui peuvent rester là un autre demi-siècle sans trouver d'acquéreur. D'étroites allées s'ouvrent sur ces cloaques, menant à des cours plus étroites encore, entourées de sombres arcades, au fronton desquelles Dante aurait pu écrire son adieu célèbre à l'espérance. N'essayez pas, en effet, de pénétrer dans ces logis humides et glacées. La nuit tombe, chaude et étouffante, on ne respire plus. Les vêtements se collent à la peau des gens avec une ténacité qui ferait supposer que leur dernière ablution a eu lieu dans de l'eau mêlée de glu. La chaleur rend les chambres bien aérées, presque intolérables, mais ici, dans ces trous noirs, elles deviennent un affreux supplice. Cette chaleur abominable a fait sortir les habitants des réduits sordides où ils ont été rôtis tout le jour par le soleil dans les misérables allées, les cours et les passages. Et en arrivant en plein air, ils éprouvent une faible joie, quelque chose de pareil à ce que pourrait ressentir un filet de bœuf échappé pour un moment du four ou de la broche. C'est par une nuit pareille, et encore assez tôt pour qu'on puisse se dire au soir, que deux personnes suivent une des rues les plus boueuses, les plus étroites, les moins engageantes de ce quartier. Plus elles avancent, et plus ce qui les entoure devient repoussant. Elles vont de Charybde à Scylla, mais avec un sang-froid de nature à prouver qu'elles sont résolues à ne pas se laisser décourager. En juger par leurs vêtements, elles appartiennent à ce sexe réputé fort et auquel il est entendu qu'incombent tous les plus rudes labeurs de la vie. L'une d'elles est M. Robert Tartar, quelquefois Bob Tartar, ex-lieutenant dans la marine de Sa Majesté, et l'autre porte le nom facile à prononcer de Joe Guilford. Tartar a découvert dans un des tiroirs de la cabine de l'amiral où se trouve enfermé un fardage varié qu'on envirait à Portsmouth, un costume dont l'apparence usée et misérable lui laisse à peine assez de dignité pour représenter un gabier vulgaire, mais le costume ne peut rien changer à l'air agréable des yeux et de la physionomie, ni aux boucles brunes de ses cheveux, ni à l'expression générale qui fait qu'on reconnaît en lui le camarade cordial, actif, joyeux, mêlé au vrai gentleman. On doit décrire autrement Joe Guilford, pour lequel aucun autre nom n'est nécessaire ici. Il a l'air d'un tout jeune homme, mais mince et beau garçon, la joue brune, l'œil vif, tous les mouvements d'une admirable souplesse. Ses mains et ses pieds sont un peu petits, peut-être, aux yeux de M. Tartar, pour en faire un bon marin, mais dans l'obscurité, ces détails ne sauraient paraître. Il est mieux vêtu que Tartare. On dirait, comme la première fois que nous l'avons vu, d'un commis de magasin du meilleur air et de manière plus aisée qu'on en voit d'ordinaire à ses pareils. Aucun de ses vêtements ne semble plus le gêner que s'il n'avait jamais appartenu à un autre. Aucun mouvement embarrassé n'indique qu'il ait jamais porté un autre nom ou d'autres habits. « Oh non, ne craignez rien pour moi, » dit-il, en réponse à quelques remarques de son compagnon sur la chaleur étouffante de la soirée. « C'est un vilain endroit, je n'en doute pas. Ces gens-là ne pourraient pas faire leurs affaires dans des quartiers mieux bâtis. Mais souvenez-vous que je suis habitué à une chaleur qui me rend les jours caniculaires de Londres très faciles à supporter. Puis je ne vais m'y exposer qu'un moment. Bientôt, si nous ne nous trompons pas tous deux, je serai forcé de l'endurer plus longtemps. »
Quel brave f...
Prenez garde, monsieur, dit Joe en l'interrompant. Souvenez-vous du lieu où nous sommes. Dans quel embarras ridicule tomberions-nous si quelqu'un nous entendait?
Je vous demande pardon et je comprends très bien. Je ferai attention désormais, répondit monsieur Tartare.
Embarqué sous les ordres d'un supérieur, j'obéis sans discussion. Seulement, les vieilles habitudes sont plus fortes que ma volonté.
Hum, je vais dire, quel brave petit camarade vous faites. Aimez-vous mieux cela?
Ah, combien je me plairais à vous avoir un jour avec moi pour tailler de bonnes besognes.
Tailler de bonnes besognes, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela se rapporte aux occupations du tailleur du bord? Reprit Joe en riant malicieusement.
Allons, vous vous expliquerez une autre fois, s'il vous plaît. Ne parlons pas d'autre chose que de notre affaire, jusqu'à ce que nous ayons passé l'endroit et que nous nous retrouvions au bord de la rivière. Êtes-vous sûr que vous vous souvenez de cet endroit?
Oh oui, tout à fait sûr. Et tenez, nous y voici. Ce n'est pas agréable de faire un plongeon dans ce trou, mais il le faut. Avant d'avancer, êtes-vous sûr de vous? Je ne parle pas de votre courage, je n'ai aucun doute à cet égard. Mais êtes-vous sûr de savoir comment vous y prendre?
Oui, très sûr, merci. Avec la grâce de Dieu, j'espère n'avoir pas peur et ne pas commettre de méprise.
Quant à avoir peur, répliqua l'ex-lieutenant, si cela arrivait, et je suis persuadé du contraire, souvenez-vous que je serai très près de vous.
J'ai battu le quartier très soigneusement et je pourrai vous venir en aide par la fenêtre au premier mot.
Eh bien, les derniers ordres sont donnés et reçus. Au large, en route.
Ils entrèrent dans une allée étroite, misérablement éclairée, sans échanger d'autres paroles.
Ils tournent, retournent sur leurs pas et arrivent enfin à la porte de la misérable maison où John Jasper a si souvent joui de visions de l'Élysée, suivi de retours plus longs aux régions infernales.
Ils n'ont pas occasion de frapper, la porte eut elle-même l'habitude de recevoir cette marque de courtoisie qui n'est de mise que dans la vie civilisée, car un homme à figure rude, dont les yeux chassieux brillent au milieu de la demi-obscurité de la cour, sort du couloir et les regarde d'un air soupçonneux. Peut-être ne leur trouve-t-il pas la mine de voleurs ou d'assassins, mais ils passent non sans être retournés deux fois et les voilà libres d'entrer. Un des deux s'y décide, Joe Guilford.
Monsieur Tartare lui dit à voix basse,
« Rappelez-vous ce que je vous ai dit, trois étages et au fond. Quand vous redescendrez, je serai là et je vous verrai quitter la vieille cambuse. Prenez garde à vous, comme un brave garçon que vous êtes, et ne soyez pas trop longtemps, s'il vous plaît. »
Au moment où Dur s'enfonça sous la porte, M. Tartare disparaît de son côté et va à...
Où ?
Son compagnon n'a pas la plus légère idée qu'on puisse aller quelque part.
Joe n'a vraiment guère de connaissance de la topographie embrouillée du vieux nid de corbeau dans lequel il se trouve. Mais Tartare veille et grimpe, c'est-à-dire qu'il rentre dans son élément. Il escalade deux murs, se hisse le long d'un tuyau de gouttière, comme s'il montait à la grande une. Puis il s'arrête, appuie un pied sur une pierre en saillie et passe son bras dans un crampon en fer qui retient la gouttière. De là, il commande aux alentours et il a une vue parfaite de certaines fenêtres demi-closes qui paraît être pour lui d'un grand intérêt. Il se procure en même temps la félicité suprême de se croire dans les radingues de Vergue par une forte brise et une mer houleuse.
Jogilfert grimpe aussi, mais d'une façon différente. Son ascension est moins difficile, mais presque aussi dangereuse, en l'absence de toute lumière et avec la menace d'une collision dans l'escalier. Heureusement, un rayon de lumière sort d'une chambre d'où s'échappent, en même temps, des odeurs abominables et des mots plus abominables encore. Heureusement aussi, le courant des habitants ne se dirige pas en bas. Enfin, Joe arrive au troisième étage en tâtonnant du pied et en s'aidant de la rampe rompue sans avoir rencontré personne. Arrivé sur le palier, il tâtonne encore pour trouver une porte. Il en rencontre une qui cède au moment où il allait y frapper. Il entre dans une chambre silencieuse. Cependant, on y perçoit un léger craquement. La pièce est sombre, si sombre qu'on n'y distingue que trois choses, la fenêtre à demi ouverte et par laquelle un faible rayon de jour arrive de la cour, et deux autres points lumineux dans ces demi-ténèbres. C'est d'abord un petit amas de charbon, brûlant dans une manière de fourneau ou de réchaud, placé sur la grille de la cheminée. C'est ensuite une étincelle placée plus haut qui brille et meurt par intervalles réguliers, comme la respiration humaine. « Hola !» dit Joe Gilfert. Ce salut peut n'être pas absolument poli en entrant sans y être invité dans la résidence d'une personne de distinction, mais il y a vraiment des occasions où cette exclamation ou ses équivalents « Ohé !» ou « Dites donc, quelqu'un !» se présentent les premières à l'esprit du visiteur. Pour le moment, l'appel de Joe produit l'effet désiré. On répond d'une voix rauque et chevrotante. L'être auquel cette voix appartient est en même temps en possession de toutes les misères humaines et de plus de la moitié des vices humains. « Qui êtes-vous, chérie, et que voulez-vous ? » « Oh, vous êtes là, la mère !» s'écrie le visiteur d'un ton joyeux. Singulière appellation appliquée à une femme qu'il ne connaît pas, mais dont, à la vérité, il a pu deviner l'âge. « Oui, mais qui êtes-vous ? Je ne peux vous voir et il faut que j'allume et mes poumons sont si malades et mon haleine si courte. Comment pourrais-je trouver les allumettes, chérie ?» Mais Joe Gilfert paraît être pourvu de tout ce qu'il lui faut en un pareil embarras. Supposons que le joli garçon a l'habitude de fumer de délicates cigarettes et qu'il porte des allumettes sur lui pour cette raison. Il en fait prendre une à la semelle de sa botte. La lueur éclaire son visage et sa personne, et aussi l'ensemble du misérable appartement, le lit à demi démoli, un fauteuil branlant, une petite table avec un bout de chandelle de suif posé dessus, le foyer avec le brasier de charbon, et la vieille femme elle-même fumant, grelottant et toussant de temps à autre, ce qui ne l'empêche point d'exprimer son opinion sur le visiteur. « Quoi ? Dieu vous bénisse ! Chérie, est-ce que je vous ai déjà vu ? Vous êtes un jeune et beau gentleman. Voilà la chandelle, allumez-la comme un honnête garçon que vous êtes. Oh là, mes poumons sont bien faibles et ma tête est bien malade. Qu'allons-nous devenir ? Oui, allumez la chandelle, chérie. » Joe Gilfert n'a pas attendu cette invitation. Avant que la vieille femme l'ait répété, la chandelle est allumée et replacée sur la table, tandis que sa propriétaire, tremblant, toussant encore, essaie de se lever de sa chaise misérable. « Maintenant, la mère, nous voici éclairés et nous pouvons nous regarder sous un meilleur jour !» s'écrie gaiement le jeune homme en aidant l'affreuse vieille à se lever. « Vous êtes encore plus beau que je ne croyais, chérie !» continue la mégère décrépite. Quelque étincelle de ceux qui auraient dû être morts depuis longtemps dans sa nature de femme jetait soudain un éclat plus vif que celui de l'allumette en voyant l'exquise beauté d'un être d'un sexe différent du sien. Une si agréable vue était peut-être refusée depuis longtemps à ses yeux abrutis par les excès. « Mais pourquoi venez-vous ici ? Quoique je sois bien contente de vous voir, » dit-elle. « Quel est votre nom, chérie, et où demeurez-vous ? « Oh, pauvre de moi, mes poumons sont bien malades et ma tête est bien faible. Ça vous serait bien égal de dire à la vieille femme votre nom et l'endroit où vous demeurez, pas vrai, chérie ?»« Cela m'est bien égal, la mère. Mon nom est Joe Gilfert, ou Joseph, pour ceux qui ne regardent pas à dépenser leur haleine. les endroits où j'habite, j'en ai deux. Un ici à Londres, Tottenham, Court Road, l'autre dans les Indes orientales. »
Les Indes orientales, le bon Dieu vous bénisse, chérie. C'est là que vient le machin pour le mélange, n'est-ce pas? Et peut-être y entendez-vous quelque chose, quoique vous soyez bien jeune et bien beau. Est-ce pour cela que vous venez, chérie? Une petite pipe? Le monde a-t-il été mauvais pour vous déjà, chérie? Et avez-vous des soucis? Si vous en avez, c'est bien ici qu'il faut venir pour vous en débarrasser. Jack le Chinois, de l'autre côté de la cour, vous ferait croire qu'il peut vous guérir, mais il ne vous causerait aucun bien, car il ne connaît pas la bonne façon de faire le mélange. Voulez-vous une petite pipe, chérie? Et avez-vous de l'argent pour la pauvre vieille? Car les prix du marché sont horriblement hauts, et il faudra payer en conséquence. » Le nombre de mots que la vieille femme parvient à dire en un temps donné est incroyable, si l'on considère la toux violente qui semble prête à la briser à tout instant. Le regard mêlé de curiosité, d'admiration et de cupidité, qui sort de ses yeux chassieux et ridés, est un des spectacles les plus instructifs et les plus mélancoliques, du moins pour un observateur. « Non, je n'ai pas besoin de la moindre petite pipe, la mère, pas pour le moment du moins. » répond le visiteur quand elle s'arrête, épuisée et toussant plus violemment. « Asseyez-vous, cela vous sera plus commode et je me mettrai là sur le bord du lit. » Et il pousse à demi sa peu séduisante hôtesse dans son fauteuil, puis il s'assied avec un frisson de dégoût qui échappe à la vieille. « Non, j'ai une autre affaire à traiter avec vous, la mère, qui vous fera beaucoup plus de bien. »
« Il n'y a rien de bon pour la pauvre vieille et pour ses pauvres poumons, surtout quand les loyers sont si chers par ici, rien de bon comme l'argent, chérie. »
Elle gémit et reprend sa pipe qu'elle avait déposée un moment. Elle la rallume et se met à fumer, ce qui remplit la chambre d'une odeur nauséabonde.
« Écoutez-moi, la mère, j'ai de l'argent et vous le gagnerez si vous voulez faire ce que je désire, » dit Joe Guilfer sur le pied du lit. « Oh, Dieu vous bénisse pour ces bonnes paroles, chérie, car le commerce va bien mal et les marchandises sont bien chères. »«
Certainement, j'ai de l'argent. Voyez, tout cela sera pour vous et vous n'aurez pas de mal à le gagner. » En disant ces mots, le beau jeune garçon fourre une de ses petites mains dans la poche de son pantalon et en retire un beau souverain brillant. La figure de la vieille prend une expression diabolique de cupidité. Elle fait, pour saisir la pièce, un mouvement aussi rapide que si elle avait 30 ans de vis de moins sur la tête.
« Ah non, pas de ça, la mère, n'essayez pas !» s'écrie le bel enfant, remettant l'argent dans sa poche et montrant au même instant la lame luisante d'un petit poignard qu'il tire à demi de son vêtement. « Ceci n'est pas pour vous spécialement, mais pour tous ceux qui mettraient la main sur moi ou sur ceux que je porte. »
« Oh, pauvre moi! Pouvez-vous croire cela de la pauvre vieille, elle qui vous admire tant, chérie, qui a les poumons si malades et sa pauvre tête si faible ?» répondit la vieille mégère en chevrotant et en retombant sur son siège.
« C'est bon, entendons-nous bien, » reprend le visiteur. « Je vous ai montré la pièce d'or et je vous ai dit qu'elle serait à vous si vous faisiez ce que je désire. » Puis je vous ai montré cette autre chose qui est en acier et très bien affilée, afin de vous faire entendre que je ne veux pas être volée. Me comprenez-vous bien ?
Qu'est-ce que vous voulez, chérie ? Vous êtes bien beau et pourtant bien dur envers une pauvre vieille. Je ne vous ai jamais vue, mais je ferai tout au monde pour vous. Ne me faites pas languir plus longtemps, ça ne sert qu'à causer plus de mal à mes pauvres poumons. Ils sont tout en lambeaux et percés comme une passoire. »
Il y a un homme appelé John Jasper, peut-être le connaissez-vous sous un autre nom, un homme brun, de bonne mine, avec de beaux cheveux et des favoris, qui vient ici quelquefois pour avoir une petite pipe, comme vous dites. Aussitôt, une pensée traversa l'esprit soupçonneux de la vieille.
C'est le crime, un homme qui le recherche, châtiment, on me poursuit comme y ayant participé, ou du moins comme le connaissant. »
Sa pensée se laissa voir dans l'expression de terreur de son regard, dont l'âge n'avait pas éteint toute la vivacité. Elle toussa et répondit à la hâte. Non, chérie, non, vous êtes dans le mauvais endroit. C'est chez Jack le Chinois, de l'autre côté de la cour, qu'il va sans doute. Ce n'est pas ici, chérie.
Alors, j'irai porter mon argent chez Jack le Chinois, de l'autre côté de la cour. J'en suis bien fâchée.
Joe Gilfer dit cela de l'air le plus simple du monde. En vérité, il ne serait pas plus à son aise s'il était agent de la police secrète, chargé d'arracher par sa nonchalance un secret d'où dépend une vie humaine.
« Oh non, chérie, oh non! Vous ne voudriez pas faire ce tort à la pauvre vieille, elle qui est au plus bas !»
gémit l'horrible mégère en se tordant les mains d'un air piteux.
« L'argent sera pour moi, chérie, et cependant, je ne peux dire où trouver celui que vous cherchez. Jack le Chinois est assez riche à force de faire des mélanges qui sont mauvais. Il n'en a pas besoin comme la pauvre vieille. »
« Arrêtez, la mère, dit le beau garçon très sévèrement. En voilà assez, et je ne veux pas continuer sur ce ton-là. Je sais que John Jasper vient ici. Je l'ai fait suivre jusqu'à la porte. »«
Ah, pauvre de moi, mes poumons ne sont plus que des rubans et des cordes !»
répondit la vieille en toussant, comme pour ajouter un commentaire naturel à cette menaçante assertion. Le ton de Joe Gilfer confirmait ses craintes les plus sérieuses et la laissait sans défense. « Oui, pas de mensonge, car ils ne vous serviront de rien, » continua Joe Gilfer. « Vous n'avez aucune raison de supposer que je veux lui faire du mal et je vous donne ma parole que je ne vous en ferai aucun à vous. Mais il a un secret et ce secret, je veux le tenir de sa propre bouche. Aidez-moi seulement à cela et l'argent est à vous. » La joie, la surprise et une certaine terreur semblèrent lutter sur le misérable visage de la vieille qui réussit à se redresser sur son siège avec une soudaine vigueur.
« Un secret, chérie, et vous voulez le faire parler quand il aura fumé? Rien que cela? Mais vous ne pouvez pas le faire. Oh, si vous pouviez! La vieille femme a essayé plus de 2 fois et plus de 3 aussi et il ne veut pas dire un mot. » « Non, chérie, vous êtes bien beau, mais vous ne réussirez pas à le faire parler. »«
Nous verrons, » répondit le beau garçon, au moment où la vieille retombait sur son siège et toussait avec plus de violence que jamais. « Vous n'avez pas le mélange qu'il faut, moi, je l'ai. »«
Vous, chérie, qui êtes si jeune et si beau ?»« Non, personne n'a le secret du mélange comme la vieille femme. Vous ne pourrez pas le faire, chérie. Oh, si vous pouviez !»
« Ne vous ai-je pas dit que j'avais passé une partie de ma vie aux Indes orientales, la mère ?» répliqua Joe Gilfer, faisant sonner son or dans sa poche. « Vous ne pouvez savoir ici tout ce que nous savons là-bas. Ce que je vous demande pour gagner cet argent, c'est de m'apprendre quand cet homme doit revenir et me permettre de lui arranger sa petite pipe. Voilà tout. » Le calcul du jeune homme était bon. La mention qu'il avait faite des Indes orientales amène dans l'esprit de l'associé, naturellement superstitieuse, de tant de criminels, un peu de cette crainte qui se mêle toujours au nom de l'Orient. À partir de ce moment, son visiteur eut l'avantage. Elle se contenta désormais de jeter de temps en temps ses réflexions sur le triste état de ses poumons et de sa tête. Son visage était tout illuminé d'un mélange d'admiration, de crainte et de respect forcé que lui avaient successivement imprimé les regards, les paroles et les actions de son visiteur. « Maintenant, écoutez-moi, car je n'ai plus que peu de temps et vous pouvez avoir d'autres visiteurs. Si vous voulez gagner cet argent, et peut-être le double... »«
Oh, le bon Dieu vous bénisse, chérie !»«
Alors souvenez-vous de ce que je vais vous dire et obéissez-moi. » Monsieur Jasper, je le sais depuis quelque temps, vient ici le jour pour convenir de sa visite du soir afin de ne rencontrer personne.
Oh, mes poumons! Comment savez-vous cela, mon beau chéri?
Peu importe comment je le sais, ainsi que beaucoup d'autres choses. Obéissez-moi, ou bien pas un sou n'ira dans votre bourse. La prochaine fois qu'il viendra, peu importe le jour, aussitôt qu'il sera sorti, « envoyez cette carte par le premier enfant que vous trouverez dans la cour, chez M. Tartare. Vous pouvez lire le nom, n'est-ce pas? Bon, chez M. Tartare, à Staple Inn. Dites-lui de se hâter et qu'il y aura une demi-couronne pour lui.
Vous ferez sur le dos de la carte autant de marques qu'il en faudra pour indiquer l'heure à laquelle Jasper devra venir dans la soirée. Ne lui dites rien qui puisse lui faire supposer que la petite pipe sera différente de celle que vous lui donnez à l'ordinaire. Une demi-heure avant l'heure indiquée sur la carte, je serai ici. Et puis, chérie, et puis après ? Puis, pendant que nous l'attendrons, je lui préparerai sa pipe. Laissez-moi ce soin. Nous aurons, d'ailleurs, assez de temps pour nous expliquer alors. Me comprenez-vous ?
Oui. Ah, pauvre de moi ! Mes poumons me font si mal ! Mais vous êtes sûre, chérie, que vous n'allez pas l'empoisonner, ce qui ferait prendre la pauvre vieille ? Pensez à cela, chérie. Vous n'allez pas l'empoisonner, n'est-ce pas ?
Non, sur l'honneur, je vous jure que cela ne lui fera aucun mal. De plus, si je voulais le tuer, est-ce que je ne pourrais pas le faire ailleurs qu'ici ?
C'est vrai, chérie, c'est bien vrai. Et vous me donnerez l'argent, bien sûr, alors ? Toute la pièce que vous avez dans votre belle main, jurez-moi aussi cela, chérie.
Je ne ferai rien de semblable, répondit Joe Guilford avec un geste indigné. Je vous le promets, c'est bien assez. Attendez, je vais vous donner quelque chose en acompte et vous aurez le souverain quand vous aurez fait ce que je vous demande.
Oh, Dieu vous bénisse, chérie! Comme vous êtes beau et comme vous êtes bon pour la vieille femme!
La mégère tousse et saisit les deux demi-couronnes que lui tend le visiteur. Elles font, en tombant dans sa main crochue, un bruit qui chatouille agréablement ses oreilles.
Et vous êtes sûre, chérie, que vous pourrez le faire parler ? Oh, si vous pouviez !
Joe Guilford, comme on le pense bien, avait suffisamment joui de l'atmosphère de cette misérable chambre dans laquelle les parfums âcres de l'opium et l'odeur nauséabonde des vêtements malpropres vous prenaient à la gorge. Une fois les conventions faites aussi distinctement que possible avec une pareille femme, il répéta ses instructions sur les deux ou trois points principaux, souhaita le bonsoir à la vieille qui lui répondit en gémissant
« Dieu vous bénisse, chérie, comme vous êtes beau !»
et il la laissa sur la chaise. Le bout de chandelle était presque consumé dans le bougeoir. Il descendit à tâtons le dangereux escalier et trouva devant la porte M. Tartare, descendu de son perchoir, précisément au moment convenu.
« Je t'avais bien dit que je ne te manquerais pas, chérie !» dit la vieille mégère, une fois seule, et apostrophant un être invisible.
Elle se frottait les mains et ricanait d'un rire diabolique.
Tu disais « inintelligible » et tu l'étais toi-même. Mais il est des Indes, chérie, et il te fera parler. Peut-être bien que tu diras quelque chose pour la pauvre vieille aussi, quand elle aura appris le nouveau mélange. Tout ne sera pas pour lui. Et alors, la vieille femme saura si tu as toujours été John Jasper ou un autre qui a un plus gros compte encore à régler avec moi que tu ne pensais, mon chéri.